Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui, édition du 23 avril 2014. Nathalie Barge en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington, en compagnie de Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, Centrafrique, Bouka dans le nord, assiégé par des combattants Séléka.
Même s'il s'agit d'un petit malgré qui sont là, mais si ils nous provoquent, nous on riposte. C'est défense de
Côte d'Ivoire, la représentante du secrétaire général de l'ONU appelle le gouvernement et l'opposition à reprendre le dialogue. Proche-Orient vers un gouvernement d'union entre le Hamas et le Fatah. Kiev annonce la fin de la trêve dans l'est de l'Ukraine. Moscou menace de riposter. Et bien sûr, en fin d'édition, les sports et la musique de Roger Muntou. Avant tout, le journal.
Nous commençons en République centrafricaine. La situation à Bouka, une ville dans le nord du pays qui a été assiégée par des éléments de l'ex-Séléka, malgré la présence de la MISCA. Le point avec Idriss Fall.
Bouka a été encerclé hier par des membres de l'ex-Séléka qui ont pris contrôle de la ville ce matin. Les tirs à l'arme lourde et légère ont fait fuir une bonne partie de la population à la mission catholique. Les soldats de la MISCA n'ont pas réagi, assurant que leur mission se résume à la protection des civils. Le colonel Ramadan Bichara, coordinateur militaire des ex-Séléka, a assuré que ces hommes ont répondu à une attaque des anti-Baleka. Mais à Bangui, Abakar Mustafa, porte-parole des ex-Séléka, les cas dément toute implication de leur troupe. Cette situation a créé la panique à Bossangoa, située à 105 km à l'ouest de Bouka. Plusieurs familles ont regagné le principal site des déplacés de l'évêché. À Bangui, donc, les chefs militaires de la coalition Séléka ont tenu une réunion et les nouvelles autorités de la transition n'ont pas réagi.
Dans le nord du Mali, un véhicule transportant des soldats tchadiens a sauté sur une mine ce matin à l'aérodrome de Kidal. Le point avec notre correspondant sur place, Assikadaï Ag Warzagan.
Kidal, à 11h35 exactement, un véhicule portant le signe de l'aménagement, disons, a sauté sur une mine près de l'aviation de Kidal. Le bilan est de 3 morts et 8 blessés. Ce véhicule a explosé sur une mine après juste le décollage d'un avion de l'ONU qui a décollé de l'aviation de Kidal. Il y a eu 3 morts sur le champ et 8 blessés. Toutes les victimes sont tchadiennes.
En Égypte, un policier et un activiste islamiste ont été tués ce mercredi au cours d'une opération des forces de sécurité près d'Alexandrie, selon le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui encore, un général de la police a péri dans l'explosion d'une bombe placée sous son véhicule en banlieue du Caire. Jacques Aristide.
L'attentat contre le général de brigade Ahmed Zaki a été perpétré devant sa maison dans la ville du 6 octobre, dans l'est de la capitale. Il faisait partie de la police anti-émeute, unité toujours sur la ligne de front lors des manifestations des pro-Morsi. Il est également le troisième général à tuer depuis le début de l'année dans des attentats ciblant des hauts gradés de la police. Ailleurs dans le pays, à Borg El Arab, dans le sud-ouest d'Alexandrie, des activistes ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre au cours d'une opération visant à arrêter un certain nombre d'éléments terroristes, pour citer le ministère de l'Intérieur. Le premier lieutenant Ahmed Saad et l'activiste Hassan Abdel Al ont trouvé la mort lors de ces affrontements. Un second activiste a été arrêté. Les attentats visant les forces de sécurité se multiplient en Égypte. Depuis l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier, les frères musulmans, qualifiés d'organisations terroristes par le gouvernement, ont condamné ces violences.
Côte d'Ivoire, la reconfiguration de la commission électorale indépendante telle que présentée par le gouvernement ne rencontre pas l'adhésion de l'opposition ivoirienne. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, constituée des proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Un reportage de Germain Dri à Abidjan.
Difficile aux formations politiques réunies au sein de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire et au gouvernement de s'accorder sur la nouvelle configuration de la Commission électorale indépendante CEI chargée d'organiser les élections générales en 2015 dans le pays. Les remarques faites à la conférence par l'Alliance vont des motivations du gouvernement au fonctionnement de la CEI en passant par sa composition et son organisation. L'Alliance propose un président choisi par consensus, Daniel Boni-Claveri.
Nous pensons que d'autres éléments doivent être pris en compte, notamment la nécessité de renforcer l'indépendance de l'institution, l'équilibre des forces, la recherche du consensus, la confiance entre tous les acteurs. Sur les 13 membres qui sont proposés par le gouvernement pour la commission électorale, il y a au moins 7 personnalités qui relèvent du gouvernement. Nous,
Germain Drin, nous parlait d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En Guinée-Bissau, la commission électorale a confirmé la tenue d'un second tour de la présidentielle le 18 mai prochain. L'ex-ministre des Finances, José Mario Vaz, affrontera le candidat indépendant Nono Gomes Nabiam, considéré comme le favori des militaires.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter du Soudan du Sud ce mercredi. Selon Human Rights Watch, il devrait réagir au massacre de civils à Bor et Bentiu et envoyer une mission urgente d'établissement des faits. Selon l'ONG, l'ONU devrait imposer des sanctions aux responsables de ces abus et augmenter la capacité de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud à protéger les civils en accélérant le déploiement de troupes supplémentaires.
À Dakar, au Sénégal, c'était toujours l'attente en début de soirée. L'ancien président Abdoulaye Wade, qui devait arriver, n'est pas rentré. Ses militants avaient prévu un meeting pour l'accueillir. Le gouvernement de Macky Sall l'a interdit.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Signature aujourd'hui d'un nouvel accord entre le Hamas palestinien et son rival de la Cisjordanie, le mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas. Dans une conférence de presse ce mercredi, les deux entités ont promis de former un gouvernement d'unité nationale dans 5 semaines et d'organiser des élections générales dans 6 mois. Nous y reviendrons plus tard dans cette émission.
L'Ukraine a officiellement annulé la trêve avec les séparatistes pro-russes dans l'Est et annoncé la reprise de ce qu'elle appelle les opérations antiterroristes. Pour sa part, la Russie menace de riposter. Précision, Lionel Gaïma.
Le premier vice-premier ministre ukrainien Vitaly Yarema a promis des mesures appropriées pour détruire, et je cite, « les groupes de gangsters dans les régions de Donetsk et Luhansk ». Selon lui, les États-Unis assurent que Kiev ne sera pas seul face à l'agression russe. Mais son pays espère, a-t-il dit, que le soutien américain sera plus substantiel. Pendant ce temps à Moscou, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a averti que la Russie ripostera comme elle l'avait fait en 2008 en Ossétie du Sud si des intérêts ou ceux de son peuple sont attaqués. Pour rappel, cette riposte russe s'était traduite par une brève guerre avec la Géorgie. Ici à Washington, le Pentagone a annoncé mardi qu'il dépêchait 600 soldats américains en Pologne et dans les pays baltes pour envoyer un message à Moscou et rassurer les alliés de l'Amérique.
Début de la tournée asiatique de Barack Obama, le président américain est arrivé au Japon où il s'est entretenu avec le premier ministre Shinzo Abe sur fond de disputes territoriales avec la Chine. Le point avec Nicolas Pineau.
Oui, Barack Obama n'a pas hésité à se mêler à la polémique entre Tokyo et Pékin. Les deux pays se disputent en effet la souveraineté de quelques îlots en mer de Chine orientale. Dans une interview accordée avant son voyage au journal Yomiuri, le président américain s'est opposé à toute tentative unilatérale de saper l'administration japonaise sur ces îles. M. Obama a aussi rappelé que ces îles sont régies par un traité de défense entre les États-Unis et le Japon. En clair, les Américains défendront Tokyo si les Chinois passent à l'attaque. Pékin a aussitôt réagi en expliquant que Washington devait dire la vérité et ne pas prendre parti. Dans le cadre de cette tournée asiatique, Barack Obama se rendra ensuite en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines, sans faire escale à Pékin.
En Afghanistan, la commission électorale a reporté à samedi la proclamation des résultats préliminaires qui étaient prévus pour demain jeudi. C'est, dit-elle, afin de mieux enquêter sur les allégations de fraude et d'irrégularité dans la présidentielle du 5 avril. Au dernier des comptes, l'ancien ministre des Affaires étrangères Abdullah Abdullah était en tête avec 44%. Contre 33% pour l'ancien économiste de la Banque mondiale, Ashraf Ghani. Les résultats définitifs doivent être proclamés le 14 mai. Si le vainqueur n'obtient pas la majorité des suffrages, un second tour est bien sûr prévu vers la fin du mois de mai.
Le ministre de la Défense du Pakistan demande la fermeture d'une station de télévision accusée de propager des nouvelles fausses et scandaleuses, selon ses termes. Selon le Comité pour la protection des journalistes, une plainte a été déposée contre Géo Télévision. La station a accusé l'agence de renseignement pakistanaise d'être l'auteur d'une tentative d'assassinat le 19 avril visant son présentateur Hamid Mir.
En Corée du Sud, le bilan de l'accident du ferry Sewol est passé aujourd'hui à 150 morts, une semaine après le naufrage. Plus de 150 des 476 passagers sont portés disparus et présumés morts. Les secouristes recevront bientôt des équipements de recherche sous-marine sophistiqués, a annoncé un responsable des gardes-côtes sud-coréens.
Au Brésil, une favela de Rio en flammes suite au meurtre du danseur populaire Douglas Rafael da Silva Pereira, âgé de 25 ans. Hier soir, les résidents de ce bidonville surplombant Copacabana ont érigé des barricades enflammées et jeté des bouteilles dans les rues. La police est intervenue et la violence s'est propagée au quartier voisin d'Ipanema. En plus d'accueillir des matchs de la Coupe du Monde de football en juin, Rio sera l'hôte des Jeux Olympiques de 2016.
Lupita Nyong'o en couverture de People, l'actrice qui a reçu un Oscar pour son rôle dans 12 Years a Slave, a été nommée plus belle femme du monde 2014 par le magazine People. L'actrice de 31 ans est née au Mexique et a grandi au Kenya. Elle a déclaré être heureuse pour les filles et les femmes africaines qui verraient sa photo à la une du magazine et, selon elle, pourraient ainsi se sentir un peu plus visible.
Voilà pour le journal avec vous en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington, Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil.
On revient sur la situation à Bouka, dans le nord de la République centrafricaine.
Oui, cette ville est depuis ce matin assiégée par des membres de Séléka. Des tirs à l'arme lourde et légère ont fait fuir une bonne partie des habitants à la mission catholique. Sur ce qui s'est passé à Bouka, Idriss Fall a joint Ramadan Bichara, le coordonnateur militaire des Séléka.
Nos éléments de Séléka, ils étaient en train de contrôler la ville de Bouka. Ils étaient attaqués par les anti-balaka. Ah, les villas, bon, à notre côté, un mort et trois blessés.
Mais apparemment, à Bouka, il y avait des soldats gabonais, non?
Non, ils n'ont pas intervenu. Parce que oui, bien sûr, les Gabonais, les forces africaines, forces internationales, parce que vous savez que les Séléka, depuis notre cantonnement, bon, on est là toujours. On n'est même pas équipés, on n'a même pas pris en charge jusqu'à maintenant. Donc, on a oublié de toujours respecter.
Si vos forces sont cantonnées, comment est-ce qu'elles peuvent aller prendre une ville alors, comme Bouka?
Non, mais Bouka, bon, Bouka, ça veut dire que Bouka, c'est pas seul Bouka seul. C'est toutes les préfectures, toute la ville, là où se trouvent les Moussas.
Est-ce que ce sont vos troupes qui avaient pris la semaine dernière en otage l'évêque de Bossangoa?
Non, Bossangoa. On n'a même pas un élément là-bas de Séléka.
Qu'est-ce que vous voulez?
Nous, on ne voulait rien. On est là où toujours on est respecté, toujours. Nous, on ne fait rien. Sauf que, même s'il s'agit d'anti-balaka qui sont là, mais si ils nous provoquent, nous, on reposte. Et c'est défendre les films. Voilà.
C'était Ramadan Bichara, coordonnateur militaire des Séléka. Quant au porte-parole des Séléka, Bangui Abba Bakar Mustafa, il dément la présence de ces hommes à Bouka.
La situation à Bouka, il s'agit d'individus, effectivement, armés, qui sont venus investir la ville, mais ce ne sont pas nos éléments, puisque dans la zone, nous n'avons pas d'éléments. Nos hommes sont un peu plus loin vers Batangafo, une partie à Kagabandoro, et dans ce secteur-là, certainement, c'est peut-être des bandits, ou bien, comme le disent certains, c'est des groupes de peuls dont le bétail et la famille ont été mis à mal par le phénomène anti-balaka.
Nous avons parlé avec le colonel Ramadan Bichara qui, lui, affirme le contraire, disant qu'ils ont été attaqués par des anti-balaka à Bouka.
Ils peuvent bien le dire. Les anti-balaka, vous savez qu'eux, ils sont un peu partout. Bon, chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais en tout cas, ce ne sont pas nos gens.
Rappelons que la ville de Bouka a été prise d'assaut mercredi matin.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. En Côte d'Ivoire, la représentante spéciale des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou, a exhorté le FPI, le Front Populaire Ivoirien, et le gouvernement à la reprise des négociations. Alors il faut dire que le FPI, principal parti de l'opposition, avait récemment décidé de se retirer du dialogue national. Madame Mindaoudou encourage l'ensemble des acteurs concernés à poursuivre leurs efforts afin de répondre aux aspirations du peuple ivoirien. Jean-Roger Bion, la jointe à Abidjan.
Toutes les deux parties, que ce soit la partie gouvernementale ou bien la partie de l'opposition, particulièrement le Front populaire ivoirien, sont conscients du fait que le dialogue demeure la seule voie à suivre dans le processus ici en Côte d'Ivoire. Donc à partir du moment où ils ont cette conscience, je suis convaincu qu'ils reprendront la voie du dialogue.
Alors il y a des sujets qui fâchent comme la commission électorale, le recensement, le dégel des avoirs des opposants. Quelles armes se donne l'ONU-ci pour amener les Ivoiriens à la table des négociations?
Au stade où nous en sommes, il ne s'agit pas de discuter dans le fond des sujets qui fâchent. Il y a certes des points sur lesquels il y a certaines divergences. Mais le plus important pour nous, à ce moment précis, est de faire en sorte que toutes les parties se retrouvent autour d'une table de négociation. Parce que tout simplement, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique dans le cadre des processus de réconciliation et de retour à la paix ici en Côte d'Ivoire. Et aussi parce que nous sommes convaincus que toutes les questions qui doivent être discutées doivent être mises sur une table de négociation. Donc le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que les parties acceptent de revenir à la table de négociation et de définir ensemble les modalités à travers lesquelles elles vont discuter de ces fameux sujets entre guillemets qui fâchent.
Les élections, c'est dans un an. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le cap est mis vers quelque chose de positif?
L'essentiel pour nous, c'est que tous ces processus de création d'un environnement favorable à la tenue d'élections crédibles et démocratiques en 2015. Donc tout ce processus, disais-je, puisse être mis en place de façon inclusive ici en Côte d'Ivoire. À partir du moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils acceptent de revenir à la table de négociation, je pense qu'un grand pas serait déjà fait dans le sens de la reconstruction de la confiance entre les deux. Le plus important, c'est de s'asseoir. Et quand on commence à se parler, on commence à se comprendre.
Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire.
On revient sur l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. L'OMS fait état d'au moins 136 morts en Guinée et 6 au Libéria. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes ayant eu des contacts avec les malades afin de contenir la propagation. Cependant, le virus Ebola présent en Guinée légèrement différent des souches identifiées par le passé en RDC ou au Gabon. Camille Grosdidier a joint Delphine Panetier de l'INSERM en France.
Parler de variante, c'est peut-être un petit peu fort. En fait, il s'agit en tout cas d'un nouvel isolat. Mais cet isolat, en fait, appartient toujours à l'espèce Zaire Ebola virus. Il fait quand même partie de la famille Zaire.
Est-ce qu'on sait comment cette variante a émergé en Afrique de l'Ouest?
Pour l'instant, non. Les données ne sont pas encore connues. Il faudrait faire des analyses épidémiologiques, des analyses aussi sur le réservoir animal, notamment qui est probablement la chauve-souris frangivore en Afrique, en fait. Ces animaux vivent dans la forêt équatoriale. Donc, effectivement, il y a de la forêt équatoriale en Guinée, comme il y avait en Afrique centrale. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait eu une émergence du virus Ebola à cet endroit-là. Par contre, en ce qui concerne l'isolat qui a été détecté cette année, a priori, c'est pas une mutation d'une espèce qui était existante. C'est un virus qui était dans la nature depuis déjà pas mal de temps et qui a fini par émerger juste actuellement.
Et quelles sont les similitudes entre le virus identifié donc en Afrique de l'Ouest et la variante Ebola Zaïre?
Sur l'arbre phylogénétique, en fait, on a distingué donc des différences au niveau des acides aminés, mais la souche qui est présente en Guinée est homologue à peu près 97% aux souches Zaïre Ebola virus précédemment détectées. Donc après, l'homologie est quand même extrêmement forte, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus parler d'une espèce différente.
L'émergence de ce virus en Afrique de l'Ouest, alors qu'en fait, les cas d'Ebola avaient été jusqu'à présent signalé essentiellement en Afrique centrale. Est-ce que cela montre en fait que ce virus peut être latent à travers l'Afrique subsaharienne?
Alors, a priori, on peut penser qu'effectivement, le virus est présent dans toute la partie de l'Afrique où son réservoir animal est présent. Donc, a priori, les chauves-souris qui servent de réservoir au virus dans son environnement naturel sont présentes dans la majeure partie de l'Afrique équatoriale, y compris jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et même le sud du Sénégal, en fait, partout où il y a des zones de forêt. Donc, effectivement, on peut extrapoler et se dire que ce virus pourrait émerger dans d'autres pays, pas uniquement en Afrique centrale.
C'était une spécialiste de l'INSERM en France, Delphine Panetier.
Vous l'avez entendu dans le journal, les Palestiniens vont former un gouvernement d'union nationale dans les prochaines semaines pour mettre fin à leur division politique. Le mouvement islamiste Hamas et l'Organisation de libération de la Palestine ont signé un communiqué conjoint dans ce sens après leur réunion de deux jours à Gaza. Idriss Fall a joint à Ramallah, en Cisjordanie, Mahmoud Labadi de la Commission des relations internationales du Fatah.
C'est depuis longtemps qu'il y a des négociations, des pourparlers, des contacts pour essayer de réconcilier les rangs palestiniens. Ça dure déjà depuis 5 ans que les Palestiniens, depuis la séparation, ils ont essayé de réconcilier, ils ont fait des efforts. Au début, ça n'a pas bien marché, mais maintenant, il paraît que les choses plus sûres et cette réconciliation doit être faite parce que aussi que les Palestiniens font face à un grand danger des Israéliens, que les Israéliens essayent de diviser le peuple palestinien pour l'éternité. Et il faut que les Palestiniens mettent fin à cette séparation et font la réconciliation.
Comment ça va se passer alors?
Je n'ai pas le détail jusqu'à maintenant, mais il y en a un accord depuis 2 ans que le président Abbas forme un gouvernement pendant 6 mois. Et durant ces 6 mois, il y aura des préparations pour faire des élections, pour essayer de renouveler la justice, la légalité aussi, politiciens palestiniens, de gouvernement et tout cela.
Mais le Hamas est déjà très populaire dans la bande de Gaza. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le Fatah?
Non, du tout. Maintenant, je crois que tous les deux sentent qu'il y aura un danger qui vient du côté d'Israël et il faut faire face à ce danger.
Mais on sait que les négociations avec Israël vont être totalement bloquées. Quelle solution alors?
Israël a déjà bloqué toutes les négociations avec elle parce qu'Israël ne veut pas négocier. Ils veulent négocier pendant une centaine d'années sans donner les Palestiniens rien de leurs droits nationaux. Israël aussi a utilisé la division et la séparation entre le Fatah et le Hamas pour dire à tout le monde que voilà, le peuple palestinien ne peut pas s'entendre. Maintenant, si les Palestiniens sont unifiés, Israël n'a plus d'argument à dire à tout le monde que les Palestiniens ne sont pas unifiés.
C'était Mahmoud Labadi de la Commission des relations internationales du Fatah à Ramallah, en Cisjordanie.
Le monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, c'est aussi les sports. Nicolas Pineau, bonsoir.
Bonsoir, chérubin.
Parlons de la Ligue des champions en Europe.
À la mi-temps de la deuxième demi-finale, c'est le Real de Madrid qui mène 1-0 devant le Bayern de Munich. À Santiago Bernabéu, c'est Karim Benzema qui a ouvert le score à la 19e minute.
Situation bien meilleure pour le FC Barcelone qui pousse un ouf de soulagement.
Et oui, vous vous souvenez, ils avaient été sanctionnés d'une interdiction de recruter pour 1 an. Le FC Barcelone pourra donc renforcer son effectif l'été prochain. En fait, la FIFA a eu peur de la procédure, hein, puisque le Barça avait fait appel devant la commission de recours. Il y avait aussi la possibilité d'un appel devant le tribunal arbitral du sport. Bref, une très longue procédure et donc la FIFA a décidé de suspendre la sanction.
Nouveau sélectionneur pour l'Éthiopie.
Plus de 2 mois après le limogeage de Seunet Bichao, la fédération éthiopienne a annoncé l'arrivée du portugais Mariano Barreto. Ce dernier est passé par la sélection du Ghana, le Dynamo Moscou ou encore le Maritimo Funchal. Il s'est engagé pour 2 ans.
On n'est pas trop loin de l'Euro 2020, Nicolas. 2 pays se retirent de la course.
Et il y aura la Coupe du Monde avant, évidemment, au Brésil. L'Euro 2020 qui sera disputé pour la première fois dans 13 villes européennes de 13 pays différents. Eh bien, il n'y aura pas de Pologne, puisque la Fédération polonaise de football a initialement proposé 2 stades, Varsovie et Chorzo. Elle a annoncé son retrait ce mercredi, tout comme la République tchèque.
La NBA, championnat de basket nord-américain, suite des playoffs.
Et suite des bonnes surprises pour les Wizards de Washington. 2-0 dans la série face aux Chicago Bulls. Hier, les Wizards se sont une nouvelle fois imposés à Chicago 101-99 après prolongation. Ça fait 2-0 dans la série. Il faut aller à 4 évidemment pour pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Et dans les deux autres rencontres de la soirée, Indiana a battu Atlanta 101-85 et revient à 1 partout. Toronto a dominé les Nets de Brooklyn 100-95 et revient à 1 partout.
Voilà, Nicolas Pineau pour les sports.
Et à présent, une petite page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Nathalie, c'était l'un des tubes planétaires de 2011, hein, Titanium, le hit électro de David Guetta. Doit beaucoup, je dois le dire Nathalie, doit beaucoup à son interprète Sia. Seulement alors, cette dernière vient d'avouer qu'au départ, elle ne voulait pas apparaître sur le morceau. On écoute Titanium.
Roger, vous allez nous dire que la participation de Sia au titre électro Titanium de David Guetta a bouleversé sa carrière.
Exactement, Nathalie. La cote de popularité de la pop star australienne sur la pente ascendante après l'excellent accueil réservé à l'album We Are Born a littéralement explosé au moment de la sortie en août 2011. Récemment, Sia a écrit sur son compte Twitter « C'est incroyable de voir comment 40 minutes de ma vie se sont transformées en mon plus grand succès ».
Voilà, Sia Titanium. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie.
On vous retrouve dans quelques minutes, dans une minute, un peu plus d'une minute. Sur le REM Show. Hein.
Super.
Et voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagno. C'était avec vous Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Eh bien, très bonne soirée à tous. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook. Bonsoir à tous. Bonsoir Chérubin. Et je laisse la parole à Roger Mountou.